good, feeling good. Je ne sais quoi,
I don't know what.
Pardon my friends, you never turn down.
Salut,
Sébastien et Jean-Luc, dans le studio de Radio G pour cette émission 251 d'Imaginaire.
Ah ouais,
je compte, moi.
Fidèle au poste.
Super. Aujourd'hui, on a deux invités qui étaient au Salon Imaginaire. Enfin, on va avoir un invité au téléphone tout de suite, Chris Wood.
Oui, Chris Wood, que j'ai rencontré grâce aussi à Jean-Luc. Parce qu'on a fait tous les deux en binôme la tournée des stands le dimanche. Et je suis resté un peu plus avec Chris Wood. Et j'ai vraiment scotché devant les belles couvertures de ses livres. Et j'ai décidé donc d'en acheter et de vous en parler avec son auteur ce soir sur le 101.5.
Et puis après, on écoutera cette fois une interview de Noémie Limous. Elle était au Salon Imaginaire sur le stand des éditions Timelapse, mais on avait déjà interviewé aux Utopiales en novembre dernier. Donc on va s'écouter ça en deuxième partie d'émission. Entre les deux, Jean-Luc, tu nous parleras des Razzies.
C'est ça,
Awards.
Je vais vous donner les résultats.
Voilà.
Je sais pas si on peut dire les gagnants ou les perdants des Razzies.
Et je crois qu'ils ont une statuette comme ça. Moi,
oui, c'est ça.
Bon, donc c'est un peu des gagnants. Bon, et ben le temps qu'on top notre invité au téléphone, on va s'écouter un peu de musique de fantasy en fait.
Ça va nous inspirer.
Ouais, Philippe Goulvan, Melvan, qui a composé la BO d'un module pour Pathfinder, hein, le jeu de rôle. Ouais, c'est une version dérivée de Dungeons & Dragons. Voilà, on s'écoute ce morceau tout de suite et puis on va une interview au téléphone dans deux minutes. Philippe Melvin, donc, avec un extrait de la BO de Wardens of Wildwood, donc une campagne pour Pathfinder. Allô, allô?
Allô?
Eh ben, il est là, Chris.
Ah, bah, super.
Bonsoir.
Et bonsoir à tous.
Tu nous entends bien?
Ouais, je vous entends, ouais, c'est bon.
Super.
Ouais, bah, nous aussi, c'est nickel. Alors, salut à toi, Chris. Bah, heureux de te retrouver, donc, cette fois sur les ondes de Radio G.
Bonheur partagé.
Voilà, on va parler de tes cycles d'Ariane, mais dans un premier temps, peux-tu te présenter succinctement à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore?
Eh ben, enchanté à tous. Donc, je suis Chris Wood, jeune auteur dans l'heroic fantasy plus le médiéval exactement. J'ai écrit les cycles d'Ariane, qui est un projet qui est quasiment fini. Et puis voilà, c'est vraiment l'écriture une passion, un passe-temps et que j'aime partager avec les lecteurs. Sinon, j'ai plein d'activités à côté aussi.
D'accord. Alors moi, je reprends un peu la notice biographique là qui figure page 81 de la nouvelle 7. Alors il est dit que tu es né en Touraine. Et comment la Touraine, une terre de châteaux, donc médiévaux, aurait nourri ton imaginaire?
Oui, je suis tourangeau de naissance et de ma jeunesse. Et en fait, ça s'est fait plutôt sur le tard. Le pourquoi, c'est parce que c'est plutôt quand j'étais adulte et que j'ai commencé à visiter des châteaux de par loisir que cet univers médiéval m'a vraiment hypnotisé et bercé.
Donc des châteaux
vraiment,
de la Loire.
Sur le tard.
Les châteaux de la Loire.
Ah, exactement, oui, les châteaux de la Loire. Ouais. On est bien nourris pour ça.
Oui, ça c'est vrai, ouais. Et toujours par rapport à ta biographie, qu'est-ce qui t'a conduit à alterner entre la parution d'une nouvelle, donc là c'est 7 en octobre 2023, suivi d'un roman, Ascension en 2024, et c'était le cas aussi pour Kyria qui est sorti en juin 2020, ta première nouvelle, et le premier roman en octobre 2022. Pourquoi cette alternance entre nouvelle et roman?
Alors, à l'origine du projet, les cycles d'Ariane, il y avait pas de nouvelles, c'était pas mon projet du tout. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire mes cycles d'Ariane, donc avec le tome 1, j'ai eu une panne d'écriture pendant plusieurs années pour des raisons un peu personnelles. Et quand j'ai voulu me relancer, je n'arrivais plus à retrouver ma plume. Donc j'ai des amis qui sont dans la littérature, ils m'ont conseillé, j'ai écrit une nouvelle pour renouer avec ta plume, pour renouer avec ton univers. Exercice que au départ j'étais vraiment réfractaire et puis j'ai dit bon, de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre réellement. J'ai commencé et sans vouloir Kyria est né, après je me suis relancé, le tome 1 est apparu et après j'ai voulu alterner en fait entre nouvelles et romans pour les lecteurs, c'est-à-dire que une nouvelle, personnellement, ça me prend 3 mois de travail et un roman, ça me prend à peu près 18 mois mais je me voyais pas faire patienter tous mes lecteurs 18 mois. Donc on a une date anniversaire, c'est le mois d'octobre, et comme ça, j'alterne une nouvelle, un roman. Il y a ce rendez-vous, mais moi, au niveau du travail, ça se voit pas.
Oui, parce que je notais justement que depuis 2022, tes 3 dernières sorties livresques avaient lieu effectivement au mois d'octobre.
Oui, exactement. C'est le petit rendez-vous anniversaire avec ma médiathèque de village, justement pour ça.
Et j'ai comme noté sur ta page Facebook, donc j'invite nos auditeurs à y aller, les cycles d'Ariane, c'est baptisé, que ta communauté était quand même assez importante. On approche près du millier donc de personnes qui te suivent. Comment cette communauté s'est-elle forgée, agrandie au fil des années?
C'est forgé au fil des rencontres que j'ai pu faire dans les salons du livre, dans les conventions, dans les fêtes médiévales, d'échanges avec d'autres auteurs, avec des lecteurs, avec des passionnés. Voilà, ça s'est construit pas après pas. Sans vraiment chercher au départ, j'étais dans le partage sans objectif derrière, sans but. Et puis petit à petit, cette communauté s'est agrandie. Et effectivement, on approche le millier. Donc n'hésitez pas à franchir le pas. Pourquoi pas ce soir, hein, soyons fous.
Ah, moi, c'est déjà fait. Hein. Donc j'invite Jean-Luc et Romain là. Et dis-moi, donc pour terminer un peu ce tour d'horizon de ta présentation générale, quelle est l'idée derrière l'emploi au pluriel, non singulier du mot cycle, qui englobe tes aventures dans les terres sérénaines? Les cycles au pluriel, mais pas le cycle.
Oui, tout à fait. Alors pourquoi? C'est parce que, on parle d'Ariane, mais en fait, il y a tout un univers derrière. Alors, Ariane, on ne la voit vraiment que dans la trilogie, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, mais tout est relié à Ariane, plus ou moins, du fait. Donc, ouais, j'ai vraiment utilisé le terme au pluriel.
Ok, ok. Alors là, on va en venir un peu au Salon Imaginaire, parce que tu étais présent encore il y a peu, donc les 26 et 27 avril.
Et, exactement, oui.
Quelles anecdotes de tes échanges eues avec des visiteurs donc souhaites-tu nous rapporter ce soir?
Alors déjà, ma première réaction, c'est quand je suis arrivé dans la salle, une merveilleuse salle qui est magnifique. Faut le noter, hein, c'est au salon de Kurnansky, si je ne me trompe pas. Elle est somptueuse et pour de la fantasy, je trouve que c'est immersif, c'est beau, c'est enfin voilà, ça c'est mon côté enfantin qui voit de l'architecture magnifique et voilà, c'était ma première réaction. Ensuite, les petites anecdotes, il y a des discussions avec les lecteurs qui sont folles, même avec les bénévoles. J'ai eu le cas le dernier jour avec. Alors là, on va m'en vouloir parce que j'ai des trous de mémoire à chaque fois. J'ai plus le prénom, j'ai juste son Insta, Poppy20, je crois, enfin, pardon. Et en fait, une fois que je commence à parler, je suis un moulin parole, même si je suis un introverti. Et il y a vraiment eu des échanges de passion, de comment j'ai pu créer mon univers, comment j'ai pu aboutir à tout ça. Et même avec vous, en fait, au-delà de l'interview que vous avez fait sur place, ouais, je prends plaisir à chaque fois de discuter avec les lecteurs, avec les autres auteurs aussi, parce qu'on a retrouvé une copine, donc on échange vraiment sur tout cet univers-là, et ça fait du bien, c'est une bouffée d'air en fait à chaque fois.
Donc là, tu tiens un bilan des plus positifs de ta première au Festival Imaginaire. C'était bien ta première.
Oui, c'était ma première. En plus, pour ma première, petite anecdote, c'était le week-end de mon anniversaire, donc c'était sympa.
Ah, d'accord. Bon anniversaire en retard.
Ouais, merci. Mais oui, je retiens un bon ressenti global, que ce soit par les visiteurs qui sont très très souriants et par l'équipe des bénévoles que je remercie encore publiquement parce qu'ils font un travail de fou, ils sont attentifs et ils nous permettent de vivre encore mieux ces expériences.
Merci à toi, Romuald, en se racontant, parce que celui qui chapeaute les bénévoles au sein de l'asso.
Et d'ailleurs, je rappelle. Il peut les remercier, ouais.
On lui fera parvenir le podcast. Et je rappelle justement à nos auditeurs du 101.5 que tu es auto-édité.
Oui.
Et pour toi, le fait d'être auto-édité, qu'est-ce que ça t'apporte comme justement liberté par rapport à une maison d'édition?
Ouais, alors auto-édité, effectivement, c'est un choix de ma part. Par le simple fait que je vais rester autonome sur la maîtrise de mon univers. Je veux pas d'oppression de chiffres, je veux pas d'oppression de date ou quoi que ce soit. Même si moi j'ai une date anniversaire avec mes lecteurs, je veux pas qu'on m'oppresse avec ça. Je veux que ça reste une passion. Et tant que ça reste une passion, il y a plus de joie, de conviction quand je discute avec les lecteurs ou les autres auteurs que s'il y a cette oppression de la maison d'édition. Enfin, c'est de mon point de vue. Je veux pas. Donc, je préfère rester autorité, mais je tiens à tirer cette petite détail. Je reste entouré d'une équipe de professionnels malgré tout.
D'accord. Alors, pour finir un peu la première partie de notre interview, alors j'ai vu également qu'à l'instar d'autres stands, tu proposais des produits dérivés à ta table. Dis-nous-en quelques mots, s'il te plaît.
Oui, alors ça, c'est pareil, c'était pas prévu du tout. À chaque campagne Ulule pour les tomes, parce qu'on fait des campagnes Ulule pour les tomes, on propose aux contributeurs en fait des goodies, donc il y a eu des mugs, il y a eu les porte-clés, etc. Et puis en fait, c'est une demande du lectorat qui fait « Ah, mais il faut continuer parce que moi, j'ai pas pu l'avoir, j'aimerais bien la récupérer, etc. » Donc en fait, au fil du temps, eh ben on les a maintenus et on les propose. Donc c'est le petit plus pour l'immersion dans l'univers, comme les mugs. On raconte souvent qu'un petit thé, un petit chocolat chaud avec le mug des cycles d'Ariane pour lire les cycles d'Ariane, voilà, petit clin d'œil, on trouvait ça amusant.
Ok. Et ben là, on va donc se quitter un court instant sur une musique qui t'inspire, issue de Gladiator, Now We Are Free.
Ouais, une musique, je pourrais l'écouter en boucle en fait, et puis partir très très loin dans mon imagination.
Et c'est Lisa Gerrard qui chante, et c'est rigolo parce que notre dernière émission, on l'avait terminée sur un morceau du Dead Can Dance. Donc c'est raccord. On reprend là un peu, quelques années plus tard. La même chanteuse.
C'est toujours des boucles, voilà, mais il y a toujours des boucles, des petits clins d'œil comme ça dans la vie, c'est ça qui est le plus amusant. Le petit clin d'œil que j'ai pu voir, c'est que l'émission d'avant, vos collègues parlaient du TVB, je suis tourangeau, je suis passionné de voler, je pratique le voler, c'est la boucle qui fait, moi j'ai trouvé ça adorable.
Je te dis à tout de suite.
À tout de suite.
Retour dans l'imaginaire sur le 100.5 avec Chris Wood.
Yes.
Oui.
C'est un pseudo.
Oui, c'est un pseudo. Inspiré de mon vrai prénom, quand même.
Ok.
Alors, c'est vrai que c'est une musique divine et ça tombe bien parce que je vais vous énumérer, chers auditeurs, le pitch de la nouvelle Seth que j'ai dévorée. Un enfant divin, Seth, issu d'une relation entre les gardiens élémentaires respectifs du feu de la terre, n'ayant point le droit de vivre sa vie dans les terres des dieux, va avoir des parents adoptifs désignés parmi les humains des terres sirénéennes. Un enfant pas comme les autres, un destin pas comme les autres. Alors, je ne veux pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais je vais faire une référence à la page 21 du tome 1 de la trilogie Les Cycles d'Ariane, Malédiction. Donc, je vais vous lire ça. Alors, la malédiction des Sétiens l'avait touché à son tour. Ce mal, venu de nulle part, frappait de plus en plus. Les hommes et les femmes qui en étaient la cible perdaient la conscience de leurs actes. De plus, ce fléau décuplait leur force et leur rage. Donc là, on a une liaison en fait entre le roman et la nouvelle, ce que j'apprécie particulièrement, sachant que la nouvelle est parue un an après le roman. Et en quoi Chris remontait aux origines de la malédiction des Sétiens, donc à travers le personnage de Seth, trouvais-tu cela parlant pour tes lecteurs et tes lectrices ?
Alors en fait, la création des nouvelles, c'est grâce à mon équipe de bêta lectrices et lecteurs. Parce qu'entre chaque tome, je discute énormément avec eux et je leur demande qu'est-ce que je pourrais faire comme nouvelle pour enrichir l'histoire, quelle partie je pourrais travailler pour offrir aux lecteurs plus de richesse dans l'univers. Et justement, l'origine de cette... C'était un sujet qui les attirait vraiment et je suis parti là-dessus et ça m'a plu. Honnêtement, écrire Seth m'a vraiment m'a plu.
Ouais, bah je l'ai bien ressenti et tout. Et également dans la nouvelle, le fait de faire se rencontrer des divinités, les gardiens élémentaires entre autres, et des hommes, d'où est venue cette idée de faire cohabiter à la fois des divinités avec des hommes sur les mêmes terres?
Alors, ils cohabitent plus ou moins, parce qu'en fait, leur passage reste quand même très subjectif.
Ouais, bref,
hein, ils déposent.
Ouais.
Mais il n'y a pas de. Enfin, pour ma part, je casse un peu cette croyance où les dieux et les hommes ne peuvent pas se rencontrer. Bien au contraire, puisque c'est un sujet qu'on détaille un peu plus loin. Mais voilà, c'était vraiment pour. Il n'y a pas de surpuissance. Même si on est au-dessus, on peut se croiser.
D'accord. Et. Toujours par rapport donc aux relations, là, les rapports entre les personnages, qu'ont-ils de si important à tes yeux pour être mis autant en avant dans tes histoires ? J'ai vraiment le sentiment, en basant sur la nouvelle 7, que les dialogues vraiment l'emportent plus sur les scènes d'action.
Ouais, ça c'est le, alors c'est l'exercice de la nouvelle qui m'a poussé à faire cela, puisque une nouvelle en fait c'est limité par un certain nombre de mots. Et si je commence à rentrer dans les détails des scènes, malheureusement, mon instinct de vouloir écrire plus loin aurait fait que j'aurais détaillé encore plus et j'aurais été, en fait, ça aurait pu être des nouvelles, ça aurait été des petits one-shots supplémentaires. Donc voilà, l'exercice du dialogue permet de, à mes yeux, de limiter ces passages-là et de rendre du coup les personnages plus vivants.
D'accord. Alors, c'est intéressant parce que dans le roman, c'est vrai qu'on a à des certains moments quand même pas mal de scènes. Ou sa bataille. Et également, rien que dans la nouvelle 7, on a également tout un univers légendaire de fantasy donc, qui se développe et complète ce qu'on apprend dessus dans le roman Malédiction. On va visiter par exemple le temple d'Elunia, la gardienne élémentaire de la Terre. On va gravir jusqu'au mont sacré Père El de Yak. On va mentionner le monde d'en bas de la fosse, etc. Mais
ouais.
Qu'est-ce qui définit par tes propres mots le mieux ton univers créé?
Qu'est-ce qui définit mon univers créé ?
Comment toi tu le définirais ton univers ? Là j'ai cité voilà des choses qu'on retrouve, des lieux, des personnages, mais comment il se démarque par rapport à ce qu'on a en fantasy aujourd'hui ?
Alors ce qui se démarquera moi dans mes écrits, c'est vraiment l'accès psychologique de mes personnages. Je vais vraiment ça va être mon fil conducteur, mon moteur de l'histoire. Tout ce qui va être autour, c'est vraiment des outils, des moyens pour mettre en avant justement toute cette psychologie humaine et qui est évolutive en plus. Et comme nous, êtres humains du 21e siècle, en fait, il y a vraiment chaque chose à les faire évoluer et j'ai besoin des éléments extérieurs pour les faire évoluer. Et c'est vraiment ce petit détail qui, selon les lecteurs, dans les retours, qui m'ont dit, oui, on est vraiment axé plus sur cette psychologie des personnages.
Sachant qu'il y a quand même beaucoup de personnages dans le roman Malédiction,
ouais.
Il n'y a pas en fait un seul héros. Et même l'héroïne, elle arrive assez tard, en fait, dans le chapitre 5, si je ne me trompe pas.
Ouais. Voilà, parce que je le prononce fort, il n'y a pas de héros. On est tous des êtres humains, on est tous défaillants, on a tous nos faiblesses, nos points forts. Il n'y a pas de super-héros. On est tous le héros de quelqu'un et on est tous le méchant de quelqu'un. Ça dépend de comment on raconte une histoire et de qui raconte l'histoire.
Et avant de conclure, je vais rapidement parler d'illustrations, dont une qui m'a vraiment plu, de la page 37 du volume Malédiction, qui représente un des personnages centraux avec un grimoire. Alors, j'imagine que c'est une référence ouverte pour toi à ton amour de la magie de la littérature. Un grimoire romain, tout aussi mystérieux que le grimoire d'Enzo dans la saga Aura de Gianluca Roberto. Voilà. Et moi, je voulais savoir pourquoi il te tenait à cœur de placer quelques illustrations dans tes bouquins.
C'est pareil, c'est une rencontre qui fait que on discute et puis on échange et on se dit ah tiens, ça serait sympa une image, ah ça serait sympa d'enrichir l'univers avec quelques petits détails sans rentrer dans la description pure et dure, parce qu'à chaque fois les personnages on les voit pas vraiment. Donc comme ça je laisse le lecteur vraiment à son libre imagination sur les personnages, mais tout en les guidant sur une immersion de la scène ou autre. C'est le petit plus, voilà, je voulais apporter ce petit plus à mes lecteurs.
Ok, bah, je vais te laisser le mot de la fin et te remercier déjà pour tout ce beau tour sur les cycles d'Ariane. Alors, j'ai pas voulu déflorer la nouvelle. Je préfère laisser aux lecteurs et lectrices donc de découvrir ce qui va arriver donc à 7. C'est une sacrée belle histoire et elle se prolonge donc pour moi donc au travers des belles pages de Malédiction et autour de ce grimoire qui pose vraiment pas mal d'interrogations, comme le grimoire donc dans Aura.
Ouais, et pour parler vite fait du grimoire avant de conclure, effectivement, tu as pu le voir au début de chaque début de chapitre, il y a un extrait du grimoire et ça correspond au chapitre. Donc voilà, c'est vraiment le petit lien, le petit fil conducteur de tout mon projet.
Ça, c'est bien vu. Ouais.
Et puis après, bah, pour conclure, mais déjà, je remercierai toute l'équipe. Je vous remercie vous de cette expérience. Je remercie bah, le Salon de l'Imaginaire, parce que sans eux, on ne serait pas vus non plus. Je remercie mes lecteurs et la communauté de me suivre, de me soutenir, même quand j'ai des coups de mou qui me poussent à aller encore plus loin, et je le fais avec passion pour eux. Donc je remercie vraiment tout le monde. Et puis lâchez rien, vivez vos rêves comme moi je les vis les miens, et croyez en vous.
C'est vraiment des jolis mots. Donc pour conclure, eh ben on espère te voir au prochain Salon Imaginaire. Ça marche ?
Eh ben écoute, ça marche avec plaisir.
Moi j'ai une petite question. Où est-ce qu'on trouve tes ouvrages ?
Alors on les trouve sur mes réseaux sociaux. En fait, il y a le lien de ma boutique en ligne. D'accord. Comme ça, vous avez le privilège d'avoir la petite dédicace en plus, les petits marque-pages qui vont bien, la petite carte, parce que la carte je la mets à part et je la donne justement en mano. Donc en passant par moi, la boutique en ligne, vous avez tout ça.
Donc tu peux nous rappeler les liens ?
Oui. Alors il y a sur Facebook les cycles d'Ariane. Et sur Instagram, c'est Chris Wood, auteur, avec le tiré du 8 entre chaque mot.
Et puis, on retrouve aussi sur Amazon.
Et sur Amazon, on le retrouve aussi, oui.
Eh bien, merci Chris.
Merci à toi.
Merci à vous. Merci à tous.
À très vite.
Au revoir.
Au revoir.
On va passer, Jean-Luc, tu vas nous donner les résultats des Razzies Awards. Un tout petit peu de musique avant, on va s'écouter Lady Gaga, un extrait de Joker Folia 2. On va voir si ils ont remporté quelques prix. I see trees of gray, red roses too. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, I'll show on the faces of people going by. I see friends saying, how do you do? They're really saying, I love you.
I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, why a wonderful world.
Tam 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 tam. Je suis Audrey Plenet et vous écoutez Radio G.
Et ouais, on reste au salon imaginaire. J'en ai profité pour faire enregistrer plein de jingles.
Ah, j'adore.
Audrey aussi aime chanter. Il n'y a pas que Lady Gaga. Allez, on passe au Wonderful World des Razzies Awards avec Jean-Luc.
C'est ça. Donc là, on va faire les grands gagnants.
On n'en avait vu aucun, je crois, dans... Si, t'en avais vu, toi ?
Megalopolis.
Ah oui, c'est vrai. Ah, vous l'aviez même chroniqué dans cette émission.
On l'a vu deux fois.
Ouais, c'est ça, je me suis endormi la première fois.
Et la deuxième.
Pire bon film.
Donc, alors, on va faire le pire film. Il y avait Borderland, Joker Folie à deux, comme on l'écoutait. Il y avait Madame Web, Megalopolis et Reagan. Donc, alors, dites-moi vos pronostics, lesquels pour vous à gagner?
Bah, j'en ai vu aucun, donc je peux pas te dire.
Joker, je sais qu'il a été massacré, donc.
C'est vrai.
Ouais. J'aurais dit Joker, la folie à deux, allez, soyons fous.
Eh ben, non, c'était Madame Web.
Ah!
Voilà. Après, je sais pas, je vais peut-être penser à le voir, quand même, ce film.
Ça parle de quoi, quoi déjà?
Pour une prochaine chronique Nanar?
Ouais, je pense. Ouais, c'est ça, je pense, ouais.
Tant qu'à faire. Autant parler de Nanar un peu récent. Ouais.
Catégorie pire acteur, nous avons Jack Black dans Dear Santa.
Oh non!
Zachary Levi dans Harold et le crayon magique. Joaquin Phoenix dans Joker, Folie à deux. Dennis Quaid, dans Reagan. Jerry Seinfeld dans Unfrosted, l'histoire de la création de la Pop Tart. Et le gagnant est.
Bah, Joaquin Phoenix, les gens, je crois, l'avaient bien aimé dans le premier Joker.
Ouais, c'est ça,
pourquoi
c'est ça. Le premier aurait... était très bien noté.
Pourquoi il aurait mal joué dans le deuxième?
Ouais, puis Jerry Seinfeld, j'aimais bien en acteur.
Moi. Ouais, moi aussi, franchement, mais là, mais c'est, bah, c'est lui le gagnant. Jerry Seinfeld.
Ah
voilà.
J'ai pas fait exprès. Hein.
Un gagnant.
Hey.
On passe à la catégorie pire actrice. Cate Blanchett dans Borderland, qui s'est fait aussi massacrer, mais comme pas possible. Lady Gaga, Joker Folie à deux.
Chante bien.
Ouais, non, mais ouais, chante bien. Mais pas dans
peut-être
le
joue
pas
mal.
Dans le film, c'est ça, en fait, je pense. Bon. Bryce Dallas Howard dans Argyle. Dakota Johnson dans Madame Web.
Madame Web, en fait, c'est un film qui est tiré de l'univers de Spider-Man. Si
ouais, c'est ça. En fait, c'est une.
Ah, d'accord.
C'est une qui l'aide, on va dire. Jennifer Lopez dans Atlas. Et la pire actrice, c'est Dakota Johnson dans Madame Web.
Ok.
Ah bah.
Voilà, donc ouais.
Faut le voir, lui. Hein.
Non, mais je pense celui-ci, il s'est fait massacrer, hein, vous voyez.
C'est un rôle de femme de ménage, Madame Web.
Oui, c'est vrai que.
Elle enlève les.
Madame est servie.
Mais c'est quoi cette misogynie, messieurs? Oh.
Moi, j'essaie de faire un peu réagir les gens sur le chat.
Pire acteur dans un second rôle, Jack Black dans Borderland, Kevin Hart encore Borderland, Shia LaBeouf dans Megalopolis, qui pour moi, je trouve qu'il jouait bien, je sais pas pourquoi, voilà.
Dans le ouais, puis c'est théâtralisé aussi.
Oui, c'est ça, voilà, vraiment dans le personnage un peu fou.
Dans le personnage,
voilà. Ouais. Tar Raim dans Madame Web encore.
Tout le monde.
John Voight dans Megalopolis, Reagan, Shadowland et Stranger. Le gagnant est sur Madame Web. C'est John Voight, voilà, c'est ça.
Ah, il a joué dans trop de nanars en 2024.
Ouais, c'est ça, je pense. Mec, c'est vrai qu'il est un peu cabotiné dans Megalopolis.
Ouais. Il voulait gagner un Razzie Award.
Ouais, apparemment. Il s'est dit, tiens, je vais jouer dans tous les pires films cette année.
Il y avait des impôts à payer, je pense. On passe au pire duo à l'écran. N'importe quel personnage, mais surtout Jack Black dans Borderland. Voilà.
Ah bah.
N'importe quel duo d'acteurs comiques dans Unfrosted. Le casting entier de Megalopolis.
Ah, les nages.
Oh, c'est méchant.
Ouais, ils sont méchants, là.
Joaquin Phoenix et Lady Gaga dans Joker Folie à deux. Dennis Quaid et Penelope Ann Miller dans Reagan.
Et ouais, Joaquin
Reagan
Phoenix.
Reagan, on n'a pas eu, donc c'est le moment.
Oui, c'est pour ça, voilà.
Allez, paf.
Attention.
Phoenix et Dennis Quaid. Lady Gaga.
Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Enfin.
Yes.
Lady Gaga.
Eh, j'ai deux points.
Deux points. Romain, faut te réveiller, Romain, faut y aller, hein.
Ouais. Le pire. Pas de radio,
qu'est-ce qu'on gagne?
Qu'est-ce qu'on gagne? Un nanar, voilà.
Ah bah je suis content, ouais. J'adore ça en plus.
Megalopolis en Blu-ray, édition limitée.
Ah bah moi je veux bien, hein. Collector.
Édition imaginaire, vous allez voir. On passe au pire Tekken. Remake, suite ou arnaque.
Ça, c'est pas mal, ça.
C'est méchant. On a The Crew, Joker Folia 2, Kraven the Hunter, Mufasa le Roi Lion, Rebel Moon 2, L'Entailleuse, que j'adorais. Voilà.
L'Entailleuse, c'est
L'Entailleuse,
quoi, ce
j'ai
truc,
adoré Rebel
j'ai
Moon.
J'ai vu les versions longues, c'est pas mal.
Ouais, ouais, c'est sympa. Hein. Mm. Alors, pour vous, c'est qui?
Je dirais Kraven.
Kraven, Romain.
The Crew.
The Crew. Eh non, c'est Joker Folia 2.
Ah.
Eh ouais, enfin.
Ils se sont un peu acharnés.
Non, ça va.
Sans douter.
Ils ont eu que deux victoires quand même. On passe à la dernière catégorie, pire scénario. Attention. Ah. Joker Folia 2, Kraven the Hunter, Madame Web, Megalopolis ou Reagan. Attention.
Bah, le scénario de Reagan, je sais pas, c'est la.
Je pense que c'est la Megalopolis.
Megalopolis. Eh ben non, c'est Madame Web.
Ah bah.
Donc voici le grand gagnant de cette année.
Ah, j'ai hâte que tu nous Web. Présentes. Hein.
Non, mais je pense que je vais vraiment faire une chronique dessus.
Ouais, ouais, bah, ouais, ça va être sympa, ouais.
Je vais acheter l'édition imaginaire encore, ouais. Voilà, spéciale. Ouais. Donc pour finir la chronique, j'aimerais parler de mon coup de cœur imaginaire 2025. Ah. Je vais parler de Gribouille War, qui a fait des dessins sur des papiers de toilette. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, Romain, tu... Il en avait déjà parlé, on avait
ouais,
fait
c'est
une,
ça, ouais, c'est ça.
Une rencontre au 42 sur Culture Geek et Recyclage.
Ouais.
Donc c'était vraiment parfait. C'est là que j'ai appris qu'il dessinait sur du PQ.
Donc je pense que je vais essayer de faire une petite interview avec lui, ça va être sympa ça, qu'il nous parle de ce
ouais,
projet.
Ouais, c'est vrai qu'on pourrait le recevoir dans
ouais,
cette émission.
Ouais. Mmh. Ouais.
Donc, ça nous a donné des idées d'ailleurs, on en parlera plus tard.
Ah, plus tard.
Quelque chose qui émerge, émerge de ce rouleau de papier toilette.
Bah, j'ai hâte de voir ça.
Il y a rien qui est perdu, on recycle tout.
Non, mais c'est ça. Mais
on passe à l'interview de Noémie Lemos.
Ouais.
Elle était là aussi sur le stand des éditions Timelapse pour défendre son roman Hope. Noémie qui a été, j'ai appris aussi, étudiante en horticulture pendant 3 ans à Angers. Donc,
d'accord,
elle n'était pas trop dépaysée. Et là, c'était Karine qui l'avait rencontrée aux dernières Utopiales. Mm. On s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Yes. Yes.
Lemos. Bonjour Noémie et merci de te prêter au jeu de cette interview.
Bonjour, merci de me proposer l'interview.
Avec plaisir. Tu es l'autrice d'un roman, Hope, publié par les éditions Timelapse en février 2024 et tu as aussi écrit une novella, Neige, qui est un conte futuriste et écologique sur le droit à la différence et le retour à la nature, ainsi que plusieurs nouvelles parues dans plusieurs anthologies. Amazonie spatiale, en avril 2024 chez Barajlon, Provaginaire en 2023, Guerre stellaire en 2022 chez Critique, Marmite et Micro-ondes en 2021 chez Zephyr, Mécanique et lutte des classes en 2020 chez Onirie, et une nouvelle dans l'AOC numéro 71 du club Présence d'Esprit, qui a été lauréate du match d'écriture des Imaginales en 2021. Donc, pour la première question, j'aimerais te poser, pour la création de Hope, tu as choisi le prisme de l'anticipation. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce choix?
Alors, ce choix, il vient de trois facteurs. Un facteur qui est pourquoi et pour qui j'écris. À ce moment-là, mes deux petites sœurs m'annoncent que je vais être tata une troisième et quatrième fois. Elles sont enceintes toutes les deux de leur deuxième enfant. Et comme j'avais écrit Neige pendant la grossesse, pareil, quasi simultanée du premier, je me dis, bah, j'ai envie à nouveau d'écrire un récit qui transmette ce en quoi je crois et qui en même temps fasse passer un bon moment à mes futurs neveux et nièces. Ils me liront quand ils seront plus grands. Et à ce moment-là, il y a Marielle Carrossio qui m'appelle et qui me dit « Écoute, j'ai envie de monter une petite maison d'édition humaine, en travaillant main dans la main avec les auteurs, autrices. Et j'ai bien aimé travailler avec toi sur Neige. » C'est moi qui étais allée lui demander de l'aide sur Neige. Et du coup, là, c'est elle qui est revenue vers moi en me proposant ça. Et... synchronicité, quasiment au même moment, je revois c'est Interstellar, le film, et il y a une faille dans le scénario qui Maury Pil. Je suis biologiste de formation. Donc Interstellar, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un équipage d'astronautes qui part d'une Terre mourante pour trouver une planète B, en passant par des trous noirs. Film très bien pour comprendre ce que c'est que l'espace-temps. Mais par contre, à un moment, forcément, ils n'arrivent pas tout de suite à trouver la planète de leur rêve. Et à un moment, ils se disent, bon, bah, si jamais on ne trouve pas, pas de soucis, si on peut pas revenir sur Terre rapatrier toute l'humanité, pas de soucis, enfin si soucis mais pas trop, parce que on a des embryons dans le vaisseau et du coup on pourra refaire nous-mêmes l'humanité. Et là moi je regarde l'équipage et je fais, alors comment vous dire, les gars, en fait c'est les gars, il y a une seule femme dans le film et bon allez, elle doit avoir entre 35 et 40 ans, donc en tant que biologiste je calcule, je me dis si elle fait aller 2-3 gamins viables dans le meilleur des cas, etc., enfin la génétique fait que non, pas créer l'humanité. Et du coup, en fait, le scénario de Hope est venu comme ça. Je me suis dit, aujourd'hui, avec l'état des connaissances actuelles, alors c'était il y a 15 ans, ça bouge assez vite, mais il y a quand même deux choses qui n'ont pas bougé. Et je l'ai vu avec Amazonie Spatiale, les astrophysiciens m'ont bien dit, le voyage à la vitesse de la lumière, c'est pas pour demain. On a du mal à l'envisager, ne serait-ce que pour des micro-particules mini-satellites numérisés. Alors, sur des vaisseaux entiers, etc., comme dans Star Wars, c'est mort. Et puis autre chose aussi qui est un trope de l'ASF, c'est la gestation ex utero. Le fait de pouvoir créer des bébés en dehors d'un corps, qu'il soit animal, féminin, etc., là aussi on est très 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 loin. On sait faire la FIV, ça par contre, moi je connais des enfants issus de FIV et tout ça, c'est rentré dans les mœurs, il n'y a pas de souci. Mais on ne sait pas se passer d'un corps humain. Et du coup, là, je me suis dit, bah, si je veux écrire sur une planète B, parce que ça me faisait très envie d'inventer une petite planète pleine de sable, parce que j'adore le désert, et de voir ce qui s'y passait. Et je me suis dit, bah, déjà, en fait, c'est pas un vaisseau arrive de la Terre et tout ça. C'est, enfin, si, c'est un vaisseau arrive de la Terre, mais en fait, il a mis très 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 longtemps pour venir. Donc, il transporte des corps cryogénisés avec des conséquences sur la santé très fortes. Donc forcément, il y a assez peu de personnes qui survivent pour être en état de procréer. Et donc, dans ce cadre-là, eh ben, les personnes qui survivent, il faut que ce soit des femmes. Donc, en fait, le mieux, c'est d'envoyer juste quelques femmes. Et on envoie, par contre, là, tous les embryons cryogénisés, parce que ça, on sait très bien faire. Et en fait, les femmes vont enfanter des femmes qui enfanteront des femmes un certain temps, le temps qu'on puisse réintroduire le caractère masculin et la reproduction sexuée, c'est-à-dire l'autonomie génétique. Et donc, Hope est partie de ça.
Et justement, l'un de tes personnages également, Jade, est ingénieure. Est-ce que c'est un petit clin d'œil à ton parcours ?
Oui. Oui, j'ai repris dans Jade une petite chose où des fois, alors c'est pas tellement le côté d'être ingénieur. Elle est ingénieure parce que sur cette planète-là, on est orienté dans la survie. Donc il faut des gens pour faire les choses, gérer les usines, les pompes, l'agriculture. Mais ce qui la différencie surtout, c'est qu'elle est ingénieure, on va dire créative, dans le sens où elle pense à des solutions qu'il n'y a pas dans le mode d'emploi. Hein. Les Terriens envoient des femmes avec un mode d'emploi qui c'est pas vraiment une intelligence artificielle, mais en tout cas une petite voix qui sort d'un circuit imprimé qui est passablement désagréable, fortement biaisée par les conditions dans lesquelles la société qui l'a envoyée. Et forcément, sur la planète, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues. Et en fait, Jade a cette créativité-là de résoudre ces problématiques-là, ce qui fait que du coup, elle va être un peu à part dans la société.
Et dans la plupart de tes écrits, on retrouve quand même la thématique de l'écologie, de la différence. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce message que tu souhaites faire passer ?
C'était très important pour moi, justement parce que j'écrivais ce récit pour mes neveux nièces, de leur transmettre aussi un peu mon vécu, mes ressentis, de ce que c'est que... Effectivement, des fois, je pense que tout le monde a un moment dans sa vie, une période où il se sent en décalage. Avec le monde où il a du mal un peu à comprendre le monde. Moi, ça a été une période très forte pendant mon adolescence. Et c'est vrai que la nature a toujours été un refuge très fort. Je viens de Savoie, donc la figure de la montagne, vraiment la roche, la végétation, les animaux, très protecteurs, très cocon. Et du coup, j'ai mis en scène un personnage qui est différent, qui est montré du doigt parce qu'il est différent. En fait, il est différent parce que, de base, du coup, c'est le premier petit garçon sur Hope. Juste avant lui, il n'y a que des femmes. Et en plus, le programme se stoppe, donc c'était pas prévu, mais il reste tout seul. Et lui, en fait, c'est un gamin de 8 ans, donc en soi, la différence, elle n'est pas forcément visible, explicite. Mais en fait, la société, via l'IA, qui est un mode d'emploi, qui dit, mais en fait, c'est le premier petit garçon, c'est la première cellule familiale, on va refaire comme sur la planète. Donc, en fait, tu es différent, donc tu vis avec ta maman, alors que toutes tes sœurs, qui n'ont pas forcément de parents, en fait, sont élevées en couvée. L'IA, elle explique qu'on ne dit pas elle, on dit il. Et en fait, la société crée cette différence. Et du coup, Asha, étant différent, n'a pas les mêmes emplois du temps. Il y a des phases où il se retrouve tout seul parce que sa maman, qui aimerait bien être avec lui, parce que Jade développe un instinct maternel, j'aime pas parler d'instinct, mais en tout cas, un amour maternel, qui fait qu'elle a vraiment eu envie d'avoir un enfant et pas juste d'enfanter parce qu'il fallait enfanter, et donc de vivre avec lui. Mais voilà, il y a énormément de problèmes, il y a que elle qui sait gérer les solutions, donc elle peut pas toujours lui accorder le temps qu'elle voudrait. Et du coup, Asha se retrouve seule et va se ressourcer dans la nature, qui est juste un désert, en fait. Un désert, c'est aussi un écosystème. Du coup, il va y trouver des choses liées au fait que, voilà, il est là, il est tout seul, et du coup, il a toutes ses portes ouvertes. Et c'est vrai que je voulais montrer qu'il y a toujours quelque chose à tirer. Et le fait d'être en dehors, bah, ça ouvre aussi d'autres imaginaires. Et après, ce qui était très important pour moi, c'est vraiment le vivre ensemble, donc à tous les niveaux. Au niveau sociétal, le personnage le plus important pour moi dans tout le livre, il est minuscule, il apparaît à peine, mais elle apparaît quand même, c'est Mélodie, c'est la copine d'Acha qui en fait lui dit « moi je te crois », qui le soutient, en fait, qui va contre cette société, qui lui dit « toi tu es différent, tu mens, voilà, il a des rêves, mais les rêves n'existent pas, on ne comprend pas ». Et elle a cette ouverture de dire plutôt que te mettre à part, plutôt que d'être dans une forme de violence, je t'accueille, je comprends pas, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Donc ça, c'était vraiment important pour moi. Et donc, niveau sociétal, et puis le niveau écosystémique, cette ouverture-là va permettre à Asha de comprendre son écosystème, et in fine, Hope, c'est le récit de comment on habite une planète avec un nouvel écosystème, avec une relation à la nature, plutôt que comment on va coloniser une planète.
Et justement, Hope, c'est un premier roman. Tu as écrit une novella, tu es novelliste, on peut le dire comme ça.
C'est pas là où j'excelle le mieux, mais oui.
Mais justement, peux-tu nous en dire plus sur la différence d'écriture entre une novelle et un roman? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile?
Pour moi, c'est plus difficile d'écrire court.
Ouais.
Et c'est vrai que je sais que je suis pas la seule à éprouver ça, parce que ouais, j'ai besoin de m'exprimer, j'aime bien être dans la suivre des personnages, même quand je lis il y a des nouvelles fantastiques, je citerai Mélanie Fadi, mais où effectivement la nouvelle est incroyable. Là, si je suis en train de lire Fume tard, le deuxième livre de Timelapse, qui est un fix-up de nouvelles, et chaque nouvelle en peu de mots se suffit à elle-même et transmet des milliards de choses, mais en peu de mots. Et ça, c'est vrai que c'est plus difficile pour moi. Donc je sais le faire, j'ai commencé comme ça, la nouvelle est un très bon exercice, mais c'est vrai que mes textes ont tendance à grossir, comme beaucoup d'auteurs. Quand j'écris une nouvelle, ça devient une novella, quand j'écris une novella, ça devient un roman. Après, maintenant, je sais à peu près sizer, je m'y retrouve un petit peu plus, mais c'est vrai que je m'exprime mieux dans le roman, parce que j'ai simplement plus le temps, et je suis moins douée pour aller droit au but.
Ouais. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire davantage aussi sur ton expérience avec Amazonie Spatiale?
Ouais.
Il y a des choses à dire.
Oui, Amazonie Spatiale. Alors là, pour le coup, l'exercice de nouvelle était extrêmement compliqué, puisque c'était une résidence d'écriture, et pendant 6 mois, on a suivi plusieurs fois, une fois par mois à peu près, on a eu des rencontres avec des scientifiques, et du coup on a appris énormément de choses sur le spatial. L'objectif était de réinventer les imaginaires du spatial, donc d'écrire des récits, alors pas forcément pur prospectif, mais à visée crédible grâce aux scientifiques pour 2075. Et du coup on a découvert des milliards de choses, on a discuté avec des astrophysiciens, avec des informaticiens, avec des juristes du droit de l'espace, avec des politiques. On était sous le parrainage de Claudie Aigneret, qui est la première astronome féminine française et européenne à être montée dans l'ISS en 96, et puis de Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux et figure politique. Donc voilà, ça montre un peu toute la diversité de ce projet qui était top. Et c'est vrai que ça m'a, moi, amené à mieux connaître le milieu du spatial. C'est vrai que pour moi, l'espace, typiquement comme dans Hope, c'est de l'imaginaire, dans lequel je vais infuser un peu de scientifique. Le scientifique va être ma base de départ d'inspiration, en fait, c'est mon déclencheur. Mais j'ai pas forcément, je m'éclate dans ce qu'on appelle la space fantasy. Mon prochain roman, c'est pour la jeunesse, et que ce soit pour la jeunesse ou pas, n'importe, je fais plein plein d'aliens, de plein de formes, couleurs, textures différentes, j'adore ça. Et du coup, là, Amazonie spatiale, c'était quand même beaucoup plus concret. Parce qu'on se parle dans 50 ans, 2075, on a pensé aux aliens, on a appris des choses aussi, mais on n'est pas dans du pur imagination. Donc ça m'a ramené un peu les pieds sur terre, paradoxalement parlant. Et puis, ça m'a, y avait tout le côté un peu scientifique, où est-ce qu'on en est, les enjeux politiques. Et ce qui a vraiment été marquant, on en a parlé en conférence sur les Utos tout à l'heure, c'était le voyage en Guyane. On est allé en Guyane voir le site de Kourou, mais pas que. Et heureusement, le site de Kourou, ça a été la première journée. Donc tout est beau, propre. J'avoue qu'en regardant, je fais quand même. On est en Guyane, mais ils nous servent des petits pois carottes à la cantine. Et quand même, les scientifiques derrière les écrans, ils sont quand même tous plus ou moins clairs. Et tous les vigiles, les femmes de ménage et tout ça sont quand même tous plus ou moins à peau plus mat. Déjà, ça grattait un peu. Et puis après, voilà, on a passé 10 jours vraiment en Guyane. On allait dans la forêt, on allait à Cayenne, on a rencontré des enfants dans des banlieues qui, pour eux, le spatial, ils sont à côté, ils ont Ariane, mais non, ça n'existe pas. Je me suis retrouvée face à un enfant de 5-6 ans et je lui dis, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que t'as envie? Elle me dit, moi je veux une voiture. Ah, ok, cool. Bon, moi je suis écolo, je vais encore une voiture, mais je fais, attends, cool, et du coup, tu vas faire quoi avec? Je pourrais aller travailler. Waouh! Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont fait voir des sujets que je connaissais pas du tout. Les impacts du colonialisme, et encore. Enfin, plein de choses difficiles. Le BAN, j'ai découvert qu'il avait fermé en 1946. Enfin, c'était hier. Enfin, c'est la date de naissance de mes grands-parents. Enfin, c'est très très concret. Alors que j'imaginais ça comme une figure romanesque de la Renaissance, un peu plus ou moins après, hein, quand comme moi on connaît pas trop l'histoire. Voilà. Donc ça, c'était très, très, très marquant. Et du coup, c'est vrai qu'écrire une nouvelle derrière, c'était très compliqué. Parce qu'en plus, à toutes ces expériences, en plus, je suis partie 3 jours en Belgique avec justement des jeunes, des enfants de 7 à 14 ans. Et du coup, je voulais écrire une nouvelle pour eux. Donc c'est ce qui m'a aidé à me concentrer et à écrire un récit à destination des jeunes, pour les jeunes et par les jeunes.
Très bien. Et quels sont... Alors, tu as parlé d'un projet jeunesse. Est-ce que tu as d'autres projets pour 2025 et pour le futur?
2025, non, il n'y a que... De signer, il n'y a que mon projet jeunesse, là, qui est en cours de travail fignolage éditorial. Donc, Station Symbiose chez Critique en mai 2025. Et après, j'écris actuellement. Donc... à voir où ça trouvera preneur, mais c'est sûr que le temps que j'écrive, du travail éditorial, etc., ce sera pas avant 2026, ça c'est sûr.
D'accord. Alors on va passer au petit questionnaire de Proust. Si tu avais la possibilité d'avoir un pouvoir magique, lequel serais-tu?
J'avoue que la télékinésie m'a toujours fait triper d'aller contre les forces gravitationnelles et la téléportation aussi. En plus, ce serait tellement plus écolo si on pouvait se téléporter.
Ah ouais, ce serait génial. Mmh. Tirer d'un endroit à un endroit.
Plein de choses et rencontrer plein de gens. Ça, ce serait cool.
Et quel objet de science-fiction serais-tu, si tu
Un objet de science-fiction. J'ai adoré un film, Premier Contact. Et du coup, je serai le traducteur. Dans Premier Contact, c'est une personne, mais il y a un moment, il y a toujours un petit logiciel, un petit boîtier, un petit truc, je serai traducteur.
Et si tu avais l'occasion d'être immergé dans un livre d'imaginaire, quel personnage serais-tu? Les animaux compris.
Personnage. Si on est dans l'imaginaire et que je peux botter en touche sur un truc qui est moins SF,
bien sûr, oui.
Mais j'ai adoré Maître des jeans de Fernanda Jelly Clark. Et son personnage d'enquêtrice principale, je crois, qui s'appelle Fatima, je crois. Ouais, elle est hyper cool. Et elle ou sa binôme, une des deux. Je serais trop contente d'être l'une de ces deux personnes.
Très bien. Et pour finir, quelle musique choisis-tu pour accompagner cette interview?
Alors, je vous propose d'écouter Noir et Nu de Pied du groupe breton Merzine. C'est une chanson qui parle des pieds noirs et du coup de la terre, de l'Algérie. Donc, c'est un petit clin d'œil à ce désert qui me tarde de découvrir et à mon grand-père qui est pied noir.
Très bien. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cette interview.
Merci, c'était vraiment très très plaisant.
Les mains dans les poches, à cette époque en péril. Le bonheur s'ébattait, car au bout, pas de prix. Nous allons sur l'instant, unis et noir à pied. Noir à pied. La manne de nos cœurs exposée en sursis. Un troll de monde qui part en sourire. La rascasse de tes os pour un peu d'ironie. Allez, va fangouler, je vais nu et noir de pied. Noir de pied. Je retourne d'où je viens et ce lieu m'est étrange. J'ai perdu tous mes liens, un peu de ma chance. Je suis nu et noir de pied. Je suis nu. Le Kenya, le goût et l'odeur, grâce aux nuits de Nuba, nos temples sont ailleurs pour un temps en tout cas. La mort de ton âme, nous courons nus et noirs de pied. Noirs de pied. On souffle en silence dans le creux de nos lits. Un jour sans lendemain, nous avons dû partir. Poussés par instinct, les désirs de survivre. Tu as vu le soleil est parti en morceaux. En morceaux. Je retourne d'où je viens et ce lieu m'est étrange. J'ai perdu tous mes liens.
On a quelques secondes pour parler de l'agenda. Moi, je voulais mentionner la soirée Image à la tronçonneuse mardi prochain. C'est dans le cadre de Pint of Science. Ça vous dit quelque chose, les gars?
Non.
Ah non, c'est quoi?
C'est des conférences faites par des chercheurs de l'université. Enfin, c'est dans toute la France. Hein. Et il y en a trois. Il y a trois soirées la semaine prochaine. Enfin, ça se fait dans un bar aussi, hein, d'où la Pint. Et donc à l'Échappée Belle, je sais pas si vous voyez, bar associatif de Belle-Beille, hein. Il y a cette soirée avec deux confs, le pouvoir des images et l'autre c'est la dimension politique des films d'horreur, par Yvelin Ducoté, docteur en études anglophones spécialisées en études filmiques, sur l'aspect politique dans 100 ans de films d'horreur de Frankenstein à Get Out.
Ah trop bien, ok.
Pour aller de la purge à tous les coups.
C'est 2 oui, euros, faut réserver en ligne. Et sinon, je voulais mentionner le week-end Un pour tous, tous au château d'Angers.
Ah.
14 et 25 mai.
En garde.